J'espère que cette visite sera une visite qui va débloquer la situation dans ce qui concerne la recherche d'une voie de solution à cette crise qui n'a que trop duré. Parce que, comme vous le constatez, les négociations avaient été relancées à Entebbe, en Ouganda, le 28 décembre de l'année dernière. Mais jusqu'à aujourd'hui, et toutes les initiatives diplomatiques qui ont eu lieu, à commencer par celle du Conseil de sécurité des Nations Unies, en poursuivant par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'était tenu à Addis Abeba du 30 au 31 janvier de cette année, et toutes les autres initiatives dont on a entendu parler après, aucune n'a pu déboucher sur une véritable relance des négociations tels que les protagonistes burundais les attendent. Il faut donc aujourd'hui que les chefs d'État qui viennent en visite au Burundi convainquent le pouvoir de Bujumbura qu'il faut absolument accepter d'entrer en négociation de manière à ce que les leaders burundais trouvent une solution politique à cette crise qui porte en elle-même non seulement et des potentialités de nuisance à la paix et à la sécurité au Burundi, mais également dans la région des Grands Lacs.
Oui, Sylvestre Ntibantunganya, dans une tribune que vous aviez publiée récemment, vous aviez dit que les chefs d'État qui sont donc attendus à Bujumbura doivent définir objectivement les partenaires du dialogue. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'il faut bien identifier tous ceux qui, au niveau du leadership, impliqués dans ce dialogue et dans ces négociations, seraient à même de prendre des engagements qui d'abord arrêtent les violences qui se commettent aujourd'hui au Burundi et qui portent fortement préjudice au peuple burundais.
Oui, mais est-ce que vous plaidez pour que vos collègues du CNARED puissent également être impliqués dans ce dialogue? Je veux parler notamment des ex-poutistes.
Quand on négocie, on n'a pas le droit de dire je ne veux pas négocier avec celui-ci. Notamment dans le cas d'espèce du Burundi, du côté de Bujumbura, on dit on accepte de négocier avec les putschistes. Des fois même, on utilise abusivement le mot, le qualificatif terroriste. Mais je vous rappellerai ceci, que lors des négociations d'Arusha, à un certain moment, quand on était en train de les promouvoir, de les préparer, quand on parlait de négociations avec le CNDD, devenu plus tard CNDD-FDD, il y en a qui disaient, écoutez, on ne négocie pas avec un mouvement tribalo-terroriste suicidaire. Mais on sait qu'on a négocié avec le CNDD-FDD. Vous savez aussi, peut-être, vous avez lu effectivement ma tribune, et que Nkurunziza lui-même, quand il était au Maki, il avait été condamné à mort par le pouvoir du major Pierre Buyoya, suite à une accusation portant sur le dépôt d'hommes à Bujumbura et qui avait fait des victimes.
Oui, donc ça n'a pas empêché que Pierre Nkurunziza est actuellement le président donc du Burundi. Autre condition que vous avez posée hein, pour le succès de cette mission de chef d'État, la durée des négociations qui doit être la plus courte possible. Est-ce n'est pas contradictoire vu la complexité de la crise actuelle dans votre pays?
Il n'y a pas de complexité dans la crise actuelle au Burundi. Et la crise actuelle a pris racine à cause de la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la constitution qui en découle, notamment en ce qui concerne son mandat qui a été imposé de force, en contradiction, en violation de ses textes fondamentaux. Et évidemment, il y a des conséquences après qui ont suivi, notamment sur le plan des droits de l'homme, avec ces centaines, et maintenant on parlait même de plus de 500 personnes qui ont été tuées, avec ces réfugiés qui ont quitté le Burundi et sont exilés dans les pays voisins, avec bien sûr toutes ces complications d'ordre diplomatique qui ont suivi, sans parler des dérèglements de l'économie burundaise qui est pratiquement aujourd'hui à terre, par terre. Mais si on dit on va négocier pour justement faire face à cette situation, il faut revenir à ce postulat de base, le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.
Oui, justement, Sylvestre Ntibantunganya, est-ce que vous êtes sûr que si jamais accord il y a entre les protagonistes, eh bien, Pierre Nkurunziza et le CNDD-FDD vont garantir son application?
À ce moment-là, il faut mettre en place, quand on arrive à un accord, après autant de dérèglements, quand on arrive à un accord, il faut mettre en place des mécanismes de sa protection et de son application. Et généralement, ce sont des mécanismes qui ont à la fois une dimension d'ordre civil, mais également une dimension d'ordre militaire, surtout dès qu'il y a des éléments dans cette crise qui exercent l'expression ou répression politique à travers la violence, comme malheureusement il en est le cas aujourd'hui au Burundi. Et dans les cas précédents, nous le savons aussi, il a fallu, après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, un déploiement d'abord de manière urgente d'un contingent sud-africain et qui après a été pris sous l'autorité de l'Union africaine et plus tard qui s'est transformé d'ailleurs en une force onusienne qui a aidé justement à la mise en application de l'accord d'Arusha. Et je pense que sur ces aspects-là, si les protagonistes burundais au niveau de leur leadership sont de bonne volonté et de bonne foi, ce ne sont pas les références dans notre propre pays même qui manquent.
Oui, le pouvoir à Bujumbura pense que le déploiement de la mission d'interposition, la mission de maintien de la paix, est un sujet dépassé. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État vont peut-être convaincre leur père, Pierre Nkurunziza, à accepter ce déploiement?
Bon, il ne faut pas être contradictoire quand on est en train de débattre sur une question. On ne peut pas à la fois accuser un pays voisin comme quoi il serait en train de favoriser le développement d'un mouvement rebelle en même temps. Et que quand il y a des mécanismes prévus pour pouvoir contenir cela, et on s'y oppose. Et donc, je pense que chacun devrait aujourd'hui réfléchir beaucoup plus en termes de responsabilité par rapport à ce dont les Burundais ont aujourd'hui largement soif. La paix, la sécurité, la concorde nationale, qui partent également de la conscience et du respect entre les divers protagonistes. Moi, je ne suis pas de ce débat. Je pense qu'on ne peut pas évacuer tout d'un coup la nécessité d'une mission de suivi et de protection de la mise en application de l'accord et de protection de la paix et de la sécurité qui en découle.
Oui, donc vous ne faites pas, disons, du déploiement de cette mission d'interposition, une condition, hein, c'est ça?
Ça dépend de celui qui analyse. On peut même en faire une condition. Si par exemple, dès le départ, et les protagonistes burundais en arrivent à dire, écoutez, nous avons besoin de ce soutien, il peut absolument et dans les conditions rapides être déployé. Et je pense que personne aujourd'hui ne pourrait dire que ce n'est pas nécessaire, ne fût-ce que pour assurer la sécurité et la protection des populations dans ce que Bujumbura appelle les quartiers contestataires, ne fût-ce que pour veiller à ce qu'il n'y ait plus aucun élément des forces de défense et de sécurité du Burundi qui fasse ou qui passe outre les dispositions internationales et burundaises en ce qui concerne le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, notamment en ce qui concerne également la surveillance de ces frontières que visiblement même le pouvoir de Bujumbura redoute comme pouvant être des passoires de forces susceptibles de déstabiliser le Burundi.
Et est-ce que cette mission réussira son pari?
Bon, ça dépendra de nous les Burundais. Ce n'est pas la mission en elle-même qui réussit, c'est beaucoup plus l'engagement évidemment des Burundais, l'engagement des protagonistes concernés à respecter ce dont ils se sont convenus, la mission ayant pour objectif de les aider à avancer dans la mise en application de ce dont ils se sont convenus.